Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM en DAB+ et sur radiocampusamiens.fr. Je m'appelle Candice et je suis votre animatrice du jour. Je suis accompagnée de Mathias à la co-animation, de Malo à la chronique et d'Aline à la technique. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Aline, qu'allons-nous écouter pour ce nouvel épisode d'Info Club Sandwich?
Alors, on va écouter deux chansons et c'est vous qui les avez choisies. Est-ce que tu peux nous parler de Mathias d'abord? Pourquoi tu as choisi la chanson Paris Métèque de Gaël Faye?
Bah, c'est un morceau que mon père me faisait écouter quand j'étais petit et je me suis dit que c'était un classique de mon enfance et que je pouvais, pourquoi pas, le réécouter ici avec vous.
Ok, et toi Candice?
J'ai choisi cette chanson parce que elle me faisait penser à l'été et que, comme on est en plein dedans, et je l'ai entendue pour la première fois ici à Radio Campus, donc comme j'ai bientôt fini mon stage, je me suis dit que c'était une boucle dans la boucle.
C'est une très bonne raison.
Super, on retrouve les actus après l'interview de Malo qui est... Super, on retrouve les actus du jour. Juste après l'interview de Malo qui est ton invité du jour.
Mon invité du jour, c'est Marie Claverie, fondatrice du festival Baie Sonore. Bonjour Marie.
Bonjour Malo.
Ce samedi 19 juillet, c'est la première édition du festival à Cailleux-sur-Mer, au bord de la mer. On va parler de la genèse de cet événement, de l'ambition, de la programmation et bien plus encore. Et ma première question, c'est quelle est la proposition de Baie Sonore? Qu'est-ce qui le différencie tout simplement des autres festivals?
Alors, comme vous l'avez dit, la première édition a lieu le 19 juillet à Cailleux-sur-Mer. Dès les débuts du projet, il y a eu une dimension, une valeur très importante au cœur de ce projet, c'est l'écologie. À savoir quand même qu'en Baie de Somme, c'est un territoire protégé et fragile. Donc, pour moi, ça a tout de suite été un des piliers de ce festival. Donc, on a vraiment axé nos actions sur le respect de l'environnement et aussi intégré la nature et l'environnement de la Baie de Somme dans ce festival. Dès la première édition, on va proposer des ateliers sur l'environnement de la Baie de Somme avec des associations cailleulaises. Et également, ce festival met l'accent en programmation sur les talents émergents, avec un axe aussi sur les artistes féminines.
Et du coup, vous en parliez là, le début, là, on va dire l'origine du projet. Qui a donné l'impulsion pour que ce festival voie le jour? Est-ce que c'est vous, toute seule, qui vous êtes dit il faut ce festival, en plus pour parler d'écologie? Enfin, comment est né ce projet?
Oui, c'est moi, toute seule au début. Alors évidemment, je suis accompagnée maintenant. Moi, je travaille dans l'industrie musicale depuis plus de 10 ans. Et j'ai toujours, ça fait longtemps que j'ai envie de créer un événement. J'ai grandi en Baie de Somme. Après, je suis partie à 17 ans et j'ai habité à l'étranger. Et c'est en revenant dans la région et en passant plus de temps en Baie de Somme à redécouvrir justement notamment la ville de Cailleux-sur-Mer que je me suis dit c'est ici que je voudrais créer ce festival. Ça a du sens. Et je me suis lancée dedans il y a à peu près 1 an et demi.
Et du coup, est-ce qu'au départ, c'était plus la volonté une volonté musicale ou une volonté écologique? Enfin, comment s'est formé cette entre-deux, entre vouloir faire un festival qui plaît aux gens, mais à tout prix avoir cette dimension écologique? C'est quoi ce qui est arrivé le premier? C'était quoi le nécessaire?
La première envie, c'était de créer un événement qui rassemble des publics différents. Et je pense que le festival est un bon moyen. Justement, et la dimension pardon environnementale, elle est arrivée aussi en choisissant la Baie de Somme, parce que justement c'est un espace protégé, on peut pas faire tout et n'importe quoi, et ça s'est imposé en fait dans les valeurs de cet événement. Je ne me voyais pas du tout organiser un événement et ne pas tenir compte de son territoire, enfin du territoire, parce qu'on a aussi une dimension locale, on veut être ancré localement. Et pour moi, ça n'avait pas de sens de ne pas avoir du coup ces deux aspects en fait ensemble. Mais la musique est venue en premier.
Vous en parliez dans les différentes activités qui sont proposées. Il y a plusieurs ateliers qui proposent de faire de l'art justement avec les déchets qu'on retrouve dans la mer. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous portés sur la récup et en fait montrer que on peut faire autre chose avec les choses qu'on voit dans la mer. Et le but avec ça, est-ce que c'était de, entre guillemets, choquer, c'est-à-dire, ah, je vais faire de l'art avec un sac plastique et le résultat va être très beau, mais de base, on ne pensait pas pouvoir faire ça. Enfin, est-ce que c'est pour un peu étonner le public?
C'est, je pense que c'est aussi pour sensibiliser, en fait, que, à partir de toutes ces choses qu'on peut voir sur la plage, et notamment les plages de Cailleux et aux alentours, en fait, déjà la quantité qu'on va retrouver, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Il faut beaucoup de matière pour les impressions plastiques, etc. Et du coup, c'est oui, pour en fait montrer que malheureusement, on a tous ces déchets qui sont là, et ensuite, essayer de rendre ces déchets utiles ou beaux avec d'autres aspects. Et c'est aussi pour proposer un moment de partage avec ces associations du territoire, pour les festivaliers et les festivalières. Et puis un petit peu de pédagogie, que ce soit pour les locaux comme moi, il y a beaucoup de choses que je connais pas du tout sur l'environnement, et aussi pour les touristes, parce qu'on est dans une région très touristique, et c'est, encore une fois, je dis souvent, mais c'est un territoire à protéger, donc il faut aussi adapter entre la nature et les touristes et l'humain.
Si on prend un peu de recul sur le festival et qu'on parle purement de manière logistique, quels ont été les plus gros défis pour vous à relever dans l'organisation de ce festival, et donc en l'occurrence d'un premier festival, d'une première édition?
Alors, dans l'organisation, bon, le plus gros défi, je pense, en tout cas à mon échelle, c'est le défi financier. C'est pas de l'organisation comme telle, mais qui définit quand même tout le projet. C'est une première édition, donc on n'a pas de subvention. Donc il faut trouver des solutions, sachant qu'on a fait des choix dès le début qui peuvent coûter plus cher, puisqu'on a des toilettes sèches avec un vrai suivi de compostage par Gincop, et ça coûte beaucoup plus cher que des toilettes avec de l'eau. Tout notre merchandising, nos goodies sont fabriqués en France, mais on a fait ces choix parce qu'on a réduit d'autres choses, d'autres dépenses. Parce que pour moi, il était très important, en fait, qu'on ait cette identité et ces valeurs dès la première édition. Je pense que pour durer, il faut vraiment s'ancrer avec quelque chose qu'on veut défendre. Voilà. Et sur les défis ensuite organisationnels purs, moi, je travaille dans la musique, mais je n'ai jamais travaillé dans le live. Donc, je ne savais pas ce que c'était que de créer un événement. Le seul événement que j'ai créé, c'était mon mariage. Donc, voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, et justement, c'est ça qui m'a aussi intéressée. J'avais tout à apprendre, que ce soit sur le côté admin, que ce soit sur la gestion de bénévoles. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on a une soixantaine de bénévoles sur cette première édition. Bon, j'ai jamais été manageuse de 60 personnes. Donc voilà, il y a plein de choses, que ce soit des dossiers de sécurité, des choses à respecter. Il y a eu pas mal de défis. Voilà, mais je me suis entourée quand même d'une équipe. Je n'aurais jamais pu faire ça toute seule. Voilà, et du coup, je continue à apprendre des choses d'ailleurs.
Est-ce que l'argent que vous avez mis sur l'aspect local, par exemple, donc les goodies qui sont fabriqués en France, c'est sûrement plus cher. Les toilettes sèches, c'est sûrement plus cher. Enfin, est-ce que tout ça, mis ensemble, vous avez dû faire des sacrifices? Il y a des choses peut-être que vous vouliez qui au final sont pas possibles, mais comme vous vouliez être, comme vous le dites, ancré dans une certaine direction.
Oui, c'était pas vraiment des sacrifices, c'était des choix pour justement que cette première édition existe avec un message fort. Pour pouvoir grandir, moi j'aurais beaucoup aimé que dès la première édition on puisse se permettre d'avoir deux soirs. On n'est que sur une journée, alors que on est de 14h30 à 2h du matin. Mais j'aurais aimé pouvoir faire plus de choses, mais il y avait la réalité du budget, et je trouvais ça plus pertinent et important de vraiment faire ses choix sur cette première édition et grandir petit à petit, plutôt que de vouloir faire quelque chose de peut-être plus ambitieux, mais sans fond concret derrière. En tout cas, c'est ce qui comptait pour moi.
Au niveau de la programmation, quel est l'objectif de cette programmation? Est-ce qu'il y a un public visé?
Alors, le festival existe avant tout pour les locaux, et puis dans un second temps pour les touristes, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de touristes sur la côte. Mon objectif, c'est surtout de faire découvrir des talents émergents. Parce que je pense que on a beaucoup d'artistes qui valent le coup d'être découverts en local et en national. Et c'est surtout, nous on a axé la programmation là-dessus, une certaine exigence artistique sur l'émergence pour pouvoir aussi offrir à ces artistes un espace pour pouvoir s'exprimer dans de bonnes conditions. Et moi, j'adorerais que les gens se rappellent qu'ils ont découvert Jeanne Bonjour ou Ultra Nook lors de Bessonore.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'un ou deux artistes en particulier ? Peut-être vous, votre coup de cœur quand vous avez fait votre programmation, des artistes que vous connaissiez ou d'autres que vous ne connaissez pas, vous vous êtes dit, mais c'est incroyable, il faut absolument qu'on l'ait.
Eh bien, justement, je viens de la citer, la première avec qui je me suis toujours dit, si je fais un événement depuis que je l'ai vue sur scène, j'aimerais trop qu'elle soit là, c'est Jeanne Bonjour, qui fait de la chanson pop, qui vient de Bretagne et qui était récemment au Chantier des Franco. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je l'ai découverte au MAMA, un festival dans l'industrie musicale à Paris, il y a deux ans, et je me suis dit, c'est génial. J'aime beaucoup son énergie. Donc, je suis vraiment très contente. C'est d'ailleurs la première artiste qui a accepté Bessonore. Donc, je suis ma petite larme quand il a fallu signer le contrat. Mais je crois que tous les artistes sont super, super chouettes. Victorien, qui est de la Starac, qui est certainement celui qui est le plus connu, qui n'est jamais venu jouer en Betsam. Donc ça, c'est pareil, en fait. C'est tous ces talents, à part les locaux, Sirène et Richard Allen, qui, eux, sont des groupes de la Betsam, eux ne sont jamais venus jouer dans cette région. Et c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Il y a les Odds, qui, eux, ne sont pas venus jouer, mais par contre, toutes leurs photos de promo, je ne sais pas si vous les avez vues, sont faites à Cailloux-sur-Mer. Et ça, je ne l'avais pas vu avant de leur parler. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais vous devez être absolument à Bessonore. On les voit en maillot de bain devant les cabines, c'est génial. Mais tous les artistes, Mackay Wester, le duo électro, c'est assez incroyable. Ultra Nook, c'est vraiment une DJ, une productrice qui explose, qui est résidente sur notre radio à Paris. Je trouve que chaque artiste est un peu mon coup de cœur. En fait.
Vous souhaitez aussi porter l'accent sur l'atmosphère de Safe Place que vous voulez instaurer, avec un lieu sûr où tout le monde peut pleinement en profiter du moment. Est-ce que pour vous, assurer aux gens, surtout aux femmes, une sécurité exemplaire, c'était une des premières choses à laquelle vous avez pensé pendant l'organisation ?
Ah oui, pour moi, c'est l'un ne va pas sans l'autre, vraiment. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, mais c'est vrai que dans le milieu festif, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je ne me vois pas du tout organiser un événement pour que les gens ne se sentent pas bien, que ce soit pour tas de raisons et jusqu'à la raison aussi du harcèlement. C'est vraiment quelque chose qui est super importante pour moi et pour d'ailleurs l'équipe qui partage avec moi la mise en place du festival. Nos bénévoles, on leur a tous demandé d'accepter une charte pour être bénévole, parce que pour nous c'est vraiment, on crée un événement pour faire la fête, se rassembler, certainement pas pour qu'il y ait des problèmes. Et on sera aussi, il y aura la présence du MAI, donc l'association amiénoise, sur la prévention des risques. Et on a d'ailleurs en amont du festival une rencontre avec une personne du MAI qui viendra faire une présentation pour nos bénévoles de 2 heures sur la prévention des risques, la gestion, ça peut être, et c'est des risques addictos, mais aussi violence, les VHSS, etc. Et ça, pour nous, c'est super important, et même pour moi, parce que même si j'ai des notions, je suis très contente de pouvoir avoir cet atelier de 2 heures, parce que j'ai plein de questions, et parfois on a des idées de comment on réagit, et en fait c'est d'autres façons. Mais oui, c'est pour vraiment, je veux que chacun et chacune puisse se sentir libre et ok et fier dans cet événement.
Et donc les 60 bénévoles, en fait, ils auront ce rôle aussi, au-delà de leur travail de bénévole, de veiller un petit peu, d'avoir un peu des yeux partout pour veiller à ce que tout se passe bien, c'est ça ?
Oui, c'est très important. Et même moi, d'ailleurs. Voilà, autant que je peux.
Dans la programmation, on voit qu'il y a une parité dans le choix des artistes. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a un problème avec cette parité dans le milieu musical, dans les lives ?
Alors, nous, on n'a pas atteint la parité. Enfin, on a 3 artistes lead, on a 7 artistes en tout. Donc, là, voilà. Après, à l'équipe dirigeante, y a moi, qui suis une femme, sur mes responsables de poste, on est majoritairement des femmes. S'il y a un problème de représentation des femmes et minorités de genre dans la musique, oui, beaucoup. On dit souvent que... Enfin, j'entends parfois, on ne trouve pas d'artistes femmes. C'est pas vrai, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste que ce ne sont pas forcément les choix que les programmateurs ou programmatrices vont mettre en avant. Donc c'est pareil, ça c'est un axe de développement pour moi qui est très important. En fait, s'il y a les valeurs du festival, on peut vraiment les résumer à l'éco-responsabilité, la mise en avant du territoire et l'inclusivité. Et moi j'ai la chance de faire partie d'un programme de mentorat qui s'appelle MEWEM, qui met en relation en fait des mentors, donc des femmes entrepreneuses qui ont assez réussi dans la musique, avec des mentorées, dont moi je fais partie, qui sont des femmes ou minorités de genre qui ont des projets, qui sont porteuses de projets. Et moi j'ai été sélectionnée avec Bessonore, et on a toute cette réflexion en fait de la place des femmes, que ce soit sur scène ou dans les postes à responsabilité de la musique. Et on est très loin de la parité dans l'industrie musicale, très très loin. Donc pour nous c'est... moi, j'essaye au max d'avoir des femmes et à des postes clés et qui m'entourent, et parce que aussi j'aime beaucoup travailler avec les femmes. Donc, je trouve ça important.
Quand on organise un premier festival, je suppose qu'il y a de l'appréhension, du stress, pas forcément au même moment. Mais au final, c'est quoi l'objectif de résultat de cette première édition, s'il y en a un, ou alors juste on laisse couler et on verra?
C'est oui. Alors l'objectif, bon, il y en a un qui est financier, c'est d'arriver au plus près du zéro. Voilà, ça c'est sûr. Et après, ce qui est au-delà de l'objectif financier, moi, ce qui vraiment m'intéresse, c'est de me dire que on a réussi cette première édition, tout s'est bien passé, les artistes ont été contents. Les festivaliers et les festivalières ont passé un bon moment, ont découvert des choses, ont rencontré d'autres gens, on a revu aussi. Moi, j'ai grandi en baie de Somme, mais après j'ai déménagé. Et en fait, là, je travaille, mon stage manager, c'est un copain du collège. Une de mes bénévoles, c'est une copine du lycée. Et en fait, ça recrée, on se retrouve des années après, alors qu'on n'était plus en contact. Ça, je trouve ça super. L'objectif aussi, c'est d'amener des personnes à peut-être se rencontrer alors qu'elles n'auraient pas forcément eu l'occasion, ou en tout cas, ça aurait été moins naturel dans d'autres circonstances. Et puis, du coup, après ça, c'est de pouvoir repartir sur l'édition 2, pour moi. Donc, d'être capable que tout se soit bien passé et de me dire, OK, on peut continuer ce projet, je ne me suis pas plantée. On a les épaules pour faire une édition 2, 3, et puis après on verra.
Justement, c'était ma question d'après, on y pense déjà, la deuxième édition.
Oui. D'ailleurs, il faut que je me concentre quand même encore sur la première, mais oui, il y a déjà plein de choses. Moi j'ai plein d'envie, on en parle avec les autres, de évidemment proposer d'autres choses artistiques, d'autres, être sur un plus long format de 2 jours. Pourquoi pas amener aussi de l'humour dans le festival. Enfin, il y a plein de choses, créer un tremplin. Il y a énormément de choses. Développer de nouveaux partenariats. On a déjà des partenariats. On est déjà très proche de la mairie de Cailloux-sur-Mer qui fait beaucoup pour nous aider dans ce projet. Des locaux aussi qui nous aident. Mais je pense qu'on a fait le max pour cette première édition, mais il y a encore beaucoup de choses à développer. Et l'objectif est là aussi derrière, en fait. Une fois que cette première édition sera terminée, il y aura un peu de repos et les comptes à faire. Mais tout de suite, moi, j'aimerais aussi voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Parce que mon objectif, ce n'est pas de faire Bessonore une année et puis d'arrêter. C'est vraiment d'essayer de faire que Bessonore devienne un événement incontournable de la baie de Somme.
Eh ben, le festival de Bessonore à Cailloux-sur-Mer, c'est le 19 juillet. Où est-ce qu'on peut retrouver votre programme, les infos pratiques comme le lieu précis, les tarifs, tout ça?
Bessonore.com. Voilà, simplement. Le site internet. C'est pareil sur Instagram, Bessonore. C'est pareil sur Facebook. Il y a juste notre email où c'est la Bessonore. @gmail.com. Mais sinon, tout est sur Internet. Il y a des affiches aussi un peu partout. Je pense qu'il y en a aussi dans la ville, voilà, mais c'est surtout sur le site Internet.
Très bien. Merci beaucoup, Marine.
Merci.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle, des silences cacophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules, moi... Pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique. L'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. De liberté pour les différents hommes, des valises d'exilés, des juifs errants et des roms, aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés, des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée, caravane d'apatrides, beau people, caravelle, sur tes frontons, Paris vient lire l'universel, et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine, capitale de la monde, à jouer la mondaine, laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores, cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.
Vous écoutiez Paris Métech de Gaël Faye. Ce titre clôture la première partie de cette émission. Pour rappel, Malo recevait aujourd'hui Marie Claverie du festival Bessonore. Cet événement éco-solidaire aura lieu à Cayeux-sur-Mer le 19 juillet 2025. N'hésitez pas à réserver vos places sur le site bessonore.com. L'émission continue et Malo vous propose le dernier épisode de sa série consacrée aux bénévoles du festival Minuit avant la nuit. Qui as-tu rencontré pour ce dernier micro-trottoir, Malo ?
Alors j'ai rencontré Alexandre qui est bénévole au développement durable, c'est le dernier de la semaine et c'est peut-être un des plus mystérieux ou du moins inconnus. Mais alors quelles sont les missions d'un bénévole développement durable à Minuit avant la nuit ?
Je crois que la première mission c'est le maintien du site dans un état propre, aider au tri des déchets, orienter les gens, faire un peu de médiation sur... qu'est-ce qui va où. Et en deuxième, une autre grosse partie du travail, c'est de s'occuper de médiation. Donc l'impact d'un festival au niveau carbone, c'est à 70% en général les déplacements. Et donc il y a aussi un travail de médiation, d'aider les gens, les sensibiliser sur comment venir autrement qu'en voiture tout seul, en favorisant genre le vélo, les transports en commun, tout ça quoi.
Et donc ça a été quoi ton, on va dire, ton tempo de travail, c'est-à-dire c'était quand le plus dur? Est-ce que là ça va être pendant le festival que vous allez être vraiment sur le rush?
Bah là le festival il a été un peu perturbé à cause de l'annulation hier, donc il y a malheureusement une phase de démontage, montage non prévu, qui finalement était pour l'instant pour moi la plus dure. Et je pense que ouais, là ça va être un peu plus tranquille une fois que le festival sera commencé, parce qu'on sera sur site, les choses seront montées et ça devrait être un peu plus dans le contact avec les gens, un peu moins physique, donc peut-être un peu plus simple de ce point de vue là.
Dernière question, si on prend un exemple très précis, par exemple les mégots de ouais. Cigarettes, comment vous avez prévu le truc? Est-ce que c'est une grosse médiation avant? Est-ce que c'est des insignes? Est-ce qu'on va aller chercher les gens au cas par cas?
Bah, typiquement les mégots c'est le gros sujet de nettoyage du festival, du site après, parce que c'est ce qu'on s'attend à avoir pas mal à ramasser. Sur les points poubelles du site, il y a un petit récupérateur pour les mégots et il y a des cendriers portables qui sont distribués au bar, etc., dans les différents stands pour justement éviter d'avoir trop de mégots. Et donc ensuite les mégots qu'on récupère ils sont donnés à un organisme qui s'appelle Chio Mégo, si je me souviens bien, qui va retraiter, utiliser, enfin séparer les matières pour en faire quelque chose derrière et séparer le toxique pour l'envoyer des laboratoires.
Merci beaucoup.
Bah merci à toi.
Merci Malo pour cette mini interview. Pour terminer l'émission, Candice et moi avons repéré quelques activités à faire cet été à Amiens et ses alentours, et on commence par la fête des quartiers. Candice, on t'écoute.
Merci Mathias. La fête des quartiers se déroulera le samedi 28 juin 2025 à la place Guinmer de 10h à 19h. Au programme, des ateliers maquillage, couture, des jeux de société et des ateliers consacrés à la fabrication d'origami. Il y aura également une exposition photo, une bibliothèque ambulante ainsi que des jeux vidéo. Mais cette édition de la fête des quartiers veut sensibiliser les jeunes à la cause environnementale, notamment avec des échanges ainsi que la création d'objets à partir d'éléments recyclés. Cette édition proposera également des animations sportives, boxe, volley-ball, pétanque, hockey sur gazon, du basket ou encore du parcours vélo. Des animations pour les plus petits seront aussi proposées, comme des balades à poney, des structures gonflables, ainsi qu'une micro-ferme. Un espace enfant sera également ouvert avec accueil du secteur nord d'Amiens. Après toutes ces activités, les visiteurs pourront faire une pause pour aller manger à l'espace restauration. Lors de cette journée, vous pourrez assister à des spectacles de danse, à du breakdance et aussi à des prestations musicales avec orchestre. Vous pourrez également assister à des défilés de mode en musique. Et en dernière partie, la fête des quartiers vous proposera un concert du groupe Nosodia. Passons maintenant à la deuxième activité que vous pouvez faire cet été. La ville d'Amiens propose également de vous faire découvrir ou redécouvrir notre belle métropole à travers une chasse au trésor numérique. Cette chasse au trésor permet d'en apprendre plus sur la Venise du Nord. Pour cela, vous devrez utiliser un GPS pour vous rendre aux bons endroits. Le point de départ se situe 23 place Notre-Dame et se termine au même endroit. Cette chasse au trésor se fait par groupe de 2 à 6 personnes maximum et elle est disponible toute l'année. On peut réserver les places sur le site Viador, mais cette expérience a un coût de 31€. Maintenant, Mathias nous propose deux activités à faire cet été. Mathias, c'est à toi. De ton côté, qu'as-tu repéré à faire cet été?
Merci Candice. Alors l'été est enfin arrivé et avec lui, l'heure est venue de se relaxer. Cette année encore, le parc Saint-Pierre se métamorphose en un véritable terrain de jeu estival. Envie de vous rafraîchir sous les jets d'eau ou alors de prendre de la hauteur avec les parcours d'acrobranche. Si vous voulez, votre dose d'adrénaline, la tyrolienne géante de 300 mètres vous attend. Alors n'hésitez plus, en famille ou entre amis, vous l'aurez compris, il y a forcément quelque chose pour vous. Retrouvez aussi des parcours Baby Grimpe, mais aussi le parcours d'aventure Ludikids, ainsi que des activités aquatiques comme le pédalo et le canoë. Pour les plus jeunes allant de 3 à 12 ans, la tyrolienne junior de 90 mètres est disponible, ainsi qu'une chute libre de 4 mètres, la Jump Tower. Petite précision, en fonction de la fréquentation, le temps d'attente peut être important. Attention, la tyrolienne géante sera fermée le 12 juillet. L'ensemble des activités seront fermées le 13 juillet en raison de l'organisation du feu d'artifice. J'ai repéré d'autres activités proposées du côté du parc du Grand Marais, comme des ateliers de bien-être et crossfit, mais aussi des tournois sportifs, des activités culturelles et pour finir, un espace info jeunesse. Certaines activités seront fermées entre 13h et 14h et le trapèze n'ouvre qu'à partir de 14h. Les activités sont ouvertes tous les jours de 11h à 19h. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez appeler le 03 22 97 40 40. 03 22 97 40 40. Vous pourrez même vous restaurer sur place. J'espère vous avoir donné des idées d'activités à faire cet été à Amiens. Merci de nous avoir écoutés et c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec le titre Swing de Billy Martin. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.